Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Aujourd'hui, je vous emmène à Mayence, au 15e siècle, avec Johannes Gutenberg, cet Allemand qui va déclencher la première vraie révolution médiatique, celle de l'imprimé.
Au cœur de l'histoire.
Au salon du livre, on reconnaît les auteurs à succès à la longueur de la file pour les approcher.
Pendant 3 jours, les lecteurs ont pu découvrir leurs plumes favorites en chair et en os dans les allées de la porte de Versailles.
Les organisateurs espèrent la venue de 220 000 visiteurs.
Comme chaque année, le Salon du Livre est l'occasion pour les amateurs et les curieux de rencontrer leurs auteurs favoris et de communier autour de ce petit objet, le livre, qui est devenu usuel pour nous tous, mais qui a constitué pour sa naissance une véritable révolution. C'est là-dessus que nous allons revenir. Comment, au cœur du 15e siècle, un personnage va imaginer une nouvelle presse. Il s'appelle Johannes Gutenberg et je vous emmène au cœur de son histoire. Cette histoire commence en 1439, à Strasbourg. Une cité aujourd'hui française, mais qui à l'époque était l'une des villes les plus puissantes du Saint-Empire germanique. Ce matin-là, le conseil de ville doit statuer sur une affaire qui peut paraître banale. Un contentieux de droit des affaires qui oppose les deux frères Dritzen, Jörg et Klaus, à un certain Johannes Gutenberg. A priori, le conflit serait une simple histoire de succession au sein d'une entreprise. Regardons de plus près l'objet de la discorde. 2 ans plus tôt, Andreas Dritzen, le frère des plaignants, Jörg et Klaus, s'est associé avec Johannes Gutenberg au sein d'une affaire. La nature même de cette entreprise est un peu floue. Il s'agissait, selon les pièces, d'une affaire de polissage de pierres précieuses, d'orfèvrerie, des ouvrages assez communs pour l'époque. Seulement, un fléau est survenu. La peste. Elle ravage l'Europe de cette époque et Andreas a été emporté, comme des milliers d'autres habitants de sa ville, par cette maladie. Après sa mort, ses deux frères veulent donc lui succéder et être partie prenante dans les bénéfices escomptés à partir de l'affaire de leur frère. Il y a même d'ailleurs une clause d'association qui prévoit dans le contrat entre Gutenberg et les Dritzen une indemnité aux descendants. Le problème, c'est que Gutenberg a toujours refusé de les payer ou de les intégrer dans son entreprise. Et c'est pour cela que l'affaire est arrivée devant le Conseil de Strasbourg. Au cœur des débats, c'est Klaus Dritzen qui prend la parole et interpelle le juge.
Le sieur Gutenberg a pris l'argent de mon frère et on ignore où cet argent est passé. À quoi il a servi? Cet homme est un escroc.
Gutenberg tente alors de se défendre en rappelant que l'objet de la séance est de déterminer si oui ou non les deux frères peuvent succéder aux frères défunts dans l'entreprise. Le juge cherche à comprendre la démarche des plaignants et pose une question essentielle. Pourquoi vouloir à tout prix intégrer une société dont le fondateur est un soi-disant escroc? Le magistrat sent bien que les principaux protagonistes ne disent pas toute la vérité. Bientôt, à la barre, plusieurs témoins se succèdent, notamment un certain Lorenz Beildeck. C'est un ouvrier qui travaille avec Gutenberg depuis des années. Il raconte que son patron possédait une presse, c'est-à-dire un dispositif destiné à imprimer des textes, ce qui était assez banal pour l'époque. Dans les années 1440, quelques textes étaient imprimés avec des caractères en bois. Mais voici comment l'ouvrier poursuit son témoignage. Il raconte quel fut son étonnement lorsqu'à la mort d'Andreas Dritzen, son maître, Johannes Gutenberg, l'envoie chez le défunt qui gardait cette fameuse presse à son domicile. Lorenz Beildeck raconte devant la cour les recommandations très précises que lui avait alors donné Gutenberg.
Je ne devais montrer cette presse à absolument personne. Je devais faire en sorte d'ouvrir la presse avec des petites vis pour que les pièces tombent séparément. Comme cela, personne ne pourrait savoir à quoi servait cette machine.
Après qu'il ait donné son témoignage, la séance se poursuit. Un autre témoin prend la parole. Il décrit l'atelier de Gutenberg. Il parle de petits objets métalliques, de formes, d'un métal aussi, le plomb. Pendant tout le procès, le mot « imprimerie » n'est jamais prononcé. Ces objets métalliques, en quoi consistent-ils? Serait-ce des caractères typographiques? Gutenberg serait-il sur le point d'aboutir
dans ses recherches? S'agit-il tout simplement d'une imprimerie en cours de création qui aurait attiré les convoitises des frères Dritzen? Ce qui est sûr, c'est que les différents protagonistes de l'affaire se montrent à chaque fois très vagues dès lors qu'il s'agit de préciser la nature de l'activité pour laquelle ils sont en désaccord. Si la presse de Gutenberg ressemblait à celle qui existait dans le Saint-Empire romain germanique à l'époque, pourquoi serait-elle l'objet de tant de mystères, de tant de convoitises? Après délibération, officiellement, le procès prend fin. Les frères Dritzen sont déboutés. Gutenberg n'est pas tenu de les intégrer dans son entreprise. Mais officieusement, l'enseignement de ce procès, c'est que le secret des recherches menées sur la presse de Gutenberg tient au cœur de nombreuses personnes. Voilà pourquoi tout le monde a tenté de dissimuler le dispositif. Voilà pourquoi, en 1439, nous savons, nous historiens, que Gutenberg est sur le point de réaliser son incroyable découverte. Mais qu'en est-il vraiment? Cet homme dont le nom est si lié à l'histoire de l'imprimerie, que sait-on de ses motivations, de ses ambitions? Personnage inventif, habile en affaires, l'inventeur a laissé de nombreuses traces dans les archives judiciaires qui témoignent en cette fin troublée du Moyen-Âge des tourments et des difficultés rencontrées pour mettre au point son objet, son projet. Mais pour les historiens, comme le dit son biographe Guy Bechtel, Gutenberg est un problème. Il a laissé beaucoup de traces, mais très éparses. On ne sait presque rien de lui. Alors, on va tenter cette opération d'essayer de comprendre l'histoire du personnage à travers l'histoire de son époque et l'histoire des objets qu'il a produits, ses presses, qui ont été et qui sont encore conservées aujourd'hui dans des musées. La ville où il travaille, c'est Mayence, une cité située sur un fleuve, le Main. Elle a été extrêmement prospère, on l'avait même surnommée la cité d'or. Elle était très prestigieuse. Elle a été fondée dans l'Antiquité romaine, il y avait à l'époque, dit-on, 50 000 habitants. Mais pendant le Moyen-Âge, avec ce terrible fléau qu'est la peste qui a emporté Dritzen, l'associé de Gutenberg, la population de la ville s'est effondrée. Au moment où Gutenberg travaille sur sa presse, combien sont-ils encore, ces habitants de Mayence? Entre 5 et 6 000. La ville a une position géographique tout à fait importante. Elle est à la fois proche de terres fertiles et non loin d'un vignoble opulent. C'est une cité commerciale, basée sur un fleuve, donc avec une position stratégique. Elle est dirigée par un évêque. C'est lui qui est le maître temporel de cette cité qui appartient, comme Strasbourg, au Saint-Empire romain germanique. Mayence et Gutenberg, c'est une histoire de longue durée, c'est une histoire de travail. Le père de Gutenberg n'était pas n'importe qui à Mayence. Friele Genfleisch, c'était son nom, appartenait à la classe bourgeoise. C'était un patricien, donc une de ces personnalités qui participait au gouvernement de la ville. Et d'ailleurs, il s'est fait connaître en luttant contre les faux monnayeurs et les escrocs qui, déjà à cette époque, il faut le bien dire, étaient présents à Mayence. Sa mère, Else Fierich, provient d'une famille de céramistes. Là, c'est un monde un peu plus modeste, celui des artisans, des fabricants. Friele Genfleisch, en bon patricien, a su construire une fortune et donner une bonne éducation à son fils. Le jeune Gutenberg a été dans une école monastique, il a fait des études générales, donc c'est un homme de culture, mais qui n'a pas forcément eu un enseignement technique. La technique, il va la découvrir par un itinéraire personnel. La jeunesse plutôt dorée de Gutenberg va prendre fin vers 1428-1430, période pendant laquelle Mayence est frappée par des troubles sociaux, des révoltes. Il y a une opposition entre les corporations artisanales et les patriciens, les bourgeois qui dirigent la ville. Et c'est ainsi que des heurts éclatent entre les deux groupes. Et bientôt, le père de Gutenberg meurt. Si bien que Johannes doit quitter Mayence et s'exiler à Strasbourg. Commence alors pour lui une nouvelle phase de son existence. Que peut faire un homme de 35-36 ans quand il arrive dans une cité dont il ne connaît rien, où il n'a pas de contact? Gutenberg, à cette époque, a quand même une qualité. Il sait être un professionnel, un homme de la technique. Quand il arrive à Strasbourg, la ville est déjà une de ses grandes puissances impériales. Elle est au cinquième rang, parmi les grandes villes de l'Empire avec plus de 25 000 habitants. C'est une cité où le commerce est au cœur de l'activité. À Strasbourg, Gutenberg, au début, est évidemment seul et donc désœuvré. Il devait en principe toucher une rente versée par sa ville natale, par Mayence, durant son exil. Mais les mois passent, les années passent et il ne reçoit rien. Il est obligé de travailler de ses mains pour subvenir à ses besoins. On suppose que c'est à ce moment-là qu'il est devenu plus ou moins spécialiste en matière d'orfèvrerie. Ce n'est pas lui-même un tailleur de pierre, mais il va conseiller différents commerçants et différents artisans pour leur permettre d'accroître leur rentabilité et d'améliorer leur technique de travail. On dirait aujourd'hui qu'il est un coach en orfèvrerie et en matière de business et d'artisanat. Alors que l'Europe se dépeuple, cette période est extrêmement vivace en termes de création intellectuelle. Déjà, au début du XVe siècle, il est possible d'imprimer des textes ou des tissus à partir de presses. En général, c'est une technique d'impression avec gravure sur pierre ou gravure sur bois d'un seul tenant. La xylographie, la gravure sur bois, est extrêmement répandue. Elle n'est pas chère et on imprime d'un bloc, c'est ce qu'on appelle une impression tabellaire, la table si on préfère. Personne n'a encore imaginé un mécanisme qui permette de multiplier ces impressions à l'infini. Au même moment, il faut se souvenir que la chrétienté traverse une crise particulière. Il y a à cette époque deux papes. Un pape en général qui se tient à Rome, et un autre qui s'est tenu dans le Saint-Empire ou qui s'est tenu en France même. C'est l'époque des papes et des antipapes. L'écrit prend donc un rôle tout à fait crucial. C'est le moyen d'éduquer ces élites moins nombreuses, mais où chaque individu devient de plus en plus précieux. L'Église essaye de garder son monopole sur l'écrit, si bien que ce sont dans les grands monastères que sont recopiés ces livres que nous regardons aujourd'hui avec tant d'admiration et qui ont parfois fait l'objet de décorations avec des images peintes d'une manière si extraordinaire. Il y a donc des moines dont la fonction consiste à copier un livre. On appelle cela des moines copistes. C'est à eux que l'on doit la plupart des manuscrits qui sont encore dans nos bibliothèques aujourd'hui et qui nous racontent le Moyen-Âge, qui sont nos sources essentielles. Donc, le texte n'est pas un imprimé à l'époque. Le livre n'est pas imprimé. Le livre est manuscrit et on recopie parfois à plusieurs centaines des exemplaires. Mais pour copier un livre, cela demande un temps infini. Parfois, il faut jusqu'à 3 ans pour obtenir qu'un texte soit entièrement recopié. C'est donc un travail extrêmement pénible, précis, méticuleux, qui demande toute l'attention de la personne. Écoutez comment le décrit un moine de l'abbaye de Saint-Aignan près d'Orléans.
« Faites attention à vos doigts, ne les posez pas sur mon écriture. Vous ne savez pas ce que c'est que d'écrire. C'est une corvée écrasante. Elle vous courbe le dos, vous obscurcit les yeux, vous brise l'estomac et les côtes. Prie donc, ô mon frère, toi qui lis ce livre, prie pour le pauvre Raoul serviteur de Dieu qui l'a transcrit tout entier de sa main dans le cloître de Saint-Aignan. »
Si bien que, pour se soulager, les moines se partagent le travail. Il peut y avoir jusqu'à 12 techniciens qui vont travailler sur un livre, avec un peintre pour les initiales, un décorateur, un scribe qui va en copier précisément le texte, un assembleur qui va le regrouper, un brocheur, un relieur, un miniaturiste. Le livre, c'est une œuvre d'art et c'est une œuvre collective. Évidemment, le livre est un outil de savoir. Et donc tous les religieux, que ce soit ceux de la hiérarchie des évêques ou des universités, veulent en contrôler la circulation. Les uns le censurent, les autres le limitent et le pourchassent. Dans tous les cas, aucun écrit et aucun livre ne peut échapper à la vigilance des ecclésiastiques. Revenons maintenant à Strasbourg en 1439. Nous l'avons dit, Gutenberg vend son affaire. Il a décidé de quitter la ville après le procès. Sans doute parce qu'il sait que quelques personnalités devinent, derrière le conflit avec les frères Dritzen, l'existence d'une invention plus fondamentale. Peut-être une nouvelle manière d'imprimer. Mais cette découverte n'est pas encore au point. Gutenberg va donc essayer une nouvelle opération. Il décide de trouver de l'argent pour investir dans des miroirs miraculeux. Ce serait en quelque sorte un business divin. essayer de trouver des miroirs qui puissent être emportés par les pèlerins pour un pèlerinage qui a lieu tous les ans à Aix-la-Chapelle. À chaque édition, des milliers de pèlerins viennent admirer une relique particulièrement sainte. Il s'agit de la robe de la Vierge Marie et des bouts de l'ange de l'enfant Jésus. Donc la foule est agglutinée, si bien que pour mieux voir, on utilise parfois des miroirs. Car la foule est telle qu'il arrive que des personnes se fassent écraser, piétiner. Oui, il y a déjà eu des morts lors du pèlerinage d'Aix-la-Chapelle. Gutenberg, donc, voit dans ce pèlerinage, avec ses petits miroirs, une manne financière. Il faut trouver un miroir qui puisse refléter d'autant mieux et qui puisse éventuellement capter la lumière divine qui émane des reliques. Il va donc emprunter de l'argent, réaliser son investissement et même obtenir des bénéfices alors que, eh bien, en 1439, le pèlerinage n'a pas eu lieu, il a été repoussé. Les miroirs ont donc permis à Gutenberg de gagner un nouvel argent qui lui a permis de repartir vers sa ville d'origine, en l'occurrence Mayence. Car les historiens sont tous d'accord là-dessus. C'est bien en 1439 qu'il revient à Mayence et qu'il se remet à travailler sur sa mystérieuse invention. À Mayence, Gutenberg retrouve une place relativement importante. D'abord, il n'est pas démuni financièrement. À preuve, en 1431, un de ses amis, l'écuyer Johann Karl, lui demande de se porter caution pour un emprunt. Il a donc suffisamment d'argent pour cela. Mais surtout, on voit qu'il ne chôme pas. Il travaille ardemment à la mise au point de sa presse. En 1450 d'ailleurs, il va se livrer à une première tentative. Imprimer la grammaire latine de Donna, un linguiste latin du 4e siècle après Jésus-Christ. C'est un texte petit, mais qui demande beaucoup de méticulosité. La base du travail est effectuée à la main. Il doit composer chaque ligne du texte, mais la composer un à un avec des caractères indépendants et en inversant la ligne par rapport au modèle imprimé. C'est encore la même technique du miroir qui est employée pour composer les textes, on l'a compris. Et donc, un à un, il a composé sa page. Il peut alors prendre des pelotes en crin de cheval et les frotter avec cette encre, souvent renforcée avec de l'amidon pour lui donner un peu plus d'épaisseur, enduire la page et seulement alors poser dessus une grande feuille de papier qui a été préalablement humidifiée. Et enfin, avec une planche de bois, on vient comprimer le papier sur les caractères. Ces manuels de grammaire latine sont donc publiés en même temps que d'autres textes religieux des indulgences pontificales. Pour effectuer toutes ces découvertes et parvenir à mettre au point véritablement son outil d'imprimerie, Gutenberg n'a cessé au long des années de demander de l'argent, de trouver des sources d'emprunt afin de parvenir à mettre au point l'outil technique. L'un des principaux créanciers de Gutenberg se nomme Johann Fust. Fust est un marchand prospère qui, évidemment, comme beaucoup, se livre un peu à des activités bancaires. Fust lui a d'abord prêté 80 livres, puis 800 florins. Et après 1452, il en redemandera à nouveau. Ce sont donc des sommes très importantes qui ont financé l'imprimerie de Gutenberg. Jusqu'à une date. Le 23 février 1455. C'est vraiment une étape capitale dans l'œuvre de Gutenberg. Cela fait maintenant des années qu'il travaille d'arrache-pied à mettre au point sa découverte. Peut-être 20, 30 ans. Et l'expérience lui a montré que la persévérance paye. Dans son atelier, il a été rejoint par un apprenti, Peter Schoeffer, qui travaille avec lui depuis quelques mois. Grâce à sa formation de copiste, il est capable de bouger les lettres les unes après les autres. Il connaît son alphabet. Ce jour-là, ce 23 février 1455, les deux hommes sont particulièrement concentrés. Le moment est solennel, silencieux. Lorsque le dernier feuillet sort de la machine, ils ont le souffle coupé devant eux. 300 feuillets sont posés les uns sur les autres. Gutenberg et Peter Schoeffer savent pertinemment le sens, la signification de ce dernier feuillet. Ils viennent de clore l'impression du premier livre écrit avec des caractères mobiles. C'est ce qu'on appelle la typographie, une innovation technique importante parmi celles qui ont permis la naissance de l'imprimerie telle que nous la connaissons, telle que pour nous, elle est devenue un objet ordinaire. On devine la fierté de Gutenberg. Il a trouvé ce qu'il cherchait, l'unité des caractères, le fait qu'il soit édité avec la même police, le même alphabet, la même famille de types en plomb. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Gutenberg est parvenu à façonner des lettres dans le métal, il en a fait des modèles, des moules, puis il a coulé un alliage de plomb plus résistant, sans doute avec de l'étain, pour en faire autant de copies qu'il le désirait. Ce sont ces fameux caractères qui forment le type DK, un système révolutionnaire. Toute l'invention est là. Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie. Il a inventé le caractère autonome reproductible. Et c'est cette technique qui va permettre de développer les nouveaux ateliers d'imprimerie, ceux qui vont à leur tour créer des livres. Et le premier d'entre tous, ce livre miraculeux qui est peut-être le plus connu dans le monde occidental, la Bible. Car c'est cela que Gutenberg va commencer à imprimer. Son premier livre commercial, pourrait-on dire. C'est une Bible. Il a été vendu par souscription dès 1454. Cette Bible latine a été achetée par des institutions religieuses, essentiellement des monastères. En d'autres termes, on dirait aujourd'hui que les institutions religieuses ont joué les « business angels ». Et le choix de Gutenberg n'est pas anodin. Il a choisi de faire sa Bible en deux grands volumes de grand format, des livres en quelque sorte solennels. Et bientôt d'ailleurs, d'autres éditions suivront. Le texte est celui de la Vulgate en latin. Il se présente sur deux colonnes dans le livre de Gutenberg, d'où l'appellation de Bible à 42 lignes. Il est divisé en chapitres. Le caractère employé ressemble à celui des livres liturgiques, très pratique pour la lecture publique. On pourrait presque y lire à un mètre de distance, tant les lettres sont imprimées larges. Le papier utilisé, c'est du parchemin et du velin. Des espaces blancs, d'ailleurs, ont été laissés pour que de plus grandes lettres, des lettrines, soient enluminées à la main. Son aspect ressemble à s'y méprendre à un manuscrit. On voit qu'on est encore au balbutiement de cette technique. Il va imprimer en 8 mois à peu près 180 exemplaires. 49 complets ou en partie ont été conservés jusqu'à nos jours dans les bibliothèques. Il en existe 3 à la Bibliothèque nationale de France, dont un sur velin et un à la Bibliothèque Mazarine sur papier. La révolution de l'imprimerie est en marche. Elle ne fait qu'au commencer, mais pourtant, déjà, c'est tout un changement dans le monde du savoir qui va se dérouler. Écoutez ces propos qui auraient été prononcés par Gutenberg au moment où il a terminé l'impression de sa Bible.
Dieu souffre parce qu'une grande multitude ne peut être atteinte par la parole sacrée. La vérité est captive dans un petit nombre de manuscrits qui renferment des trésors. Brisons le sceau qui les lie, donnons des ailes à la vérité. Qu'ils ne soient plus manuscrits à grands frais, par des mains qui se fatiguent, mais qu'ils volent, multipliés par une machine infatigable, et qu'ils atteignent tous les hommes.
Gutenberg avait compris qu'avec l'impression, le statut du texte sacré pouvait changer. D'une certaine manière, il savait qu'il allait permettre à des millions de chrétiens de lire la Bible alors que jusqu'à présent, la plupart d'entre eux ne connaissaient le texte que soit par des lectures à voix haute qui étaient faites par les prêtres, les ecclésiastiques, soit pour en avoir entendu ou touché des extraits. Il était très rare de pouvoir se permettre de lire complètement le texte de la Bible. Et on comprend que cette idée-là de l'imprimerie va à son tour avoir des effets sur la liturgie et sur la conception même de la parole religieuse. En imprimant la Bible, Gutenberg a créé la possibilité de désacraliser ce texte et d'en faire une lecture analytique, une lecture critique. Derrière l'histoire de la naissance de l'imprimerie se cache la transformation et la révolution spirituelle qui va déboucher moins d'un demi-siècle plus tard sur la réforme luthérienne. Et plus tard encore, la réforme calviniste. L'imprimé va révolutionner les esprits. En novembre 1455, pourtant, Gutenberg connaît une révolution. Il doit abandonner son matériel d'imprimerie à Johann Fust, son créancier. À défaut d'avoir pu rembourser, Fust a obtenu du tribunal de Mayence que Gutenberg lui confie son imprimerie. Gutenberg va donc perdre son outil technique. Il va vivre difficilement pendant quelques années avant finalement d'obtenir la reconnaissance de l'archevêque de Mayence qui va lui donner le titre de gentilhomme ainsi qu'une rente. Il finira ses jours seul, sans descendance. On dit qu'à la fin de sa vie, il était devenu aveugle et qu'il se contentait de toucher les feuilles imprimées pour en sentir l'impression des caractères. Le 3 février 1468, à 70 ans, Gutenberg meurt. Mais le livre ne s'éteint pas avec lui. Dès la fin du XVe siècle, environ 12 millions en ont déjà été imprimés. Et des imprimeries ont essaimé dans toutes les villes du monde. À partir de cette date, une véritable révolution de l'imprimé s'est développée. Il y aura les livres, puis il y aura les publications annuelles, les almanachs, et puis les publications hebdomadaires, et puis les quotidiens, ces journaux, qui vont composer cette presse qui existe encore de nos jours, ainsi que ces nombreux ouvrages que vous pouvez retrouver, comme chaque année, au Salon du Livre avec leurs auteurs. Et cette presse, qui aussi, il faut bien le dire, alimente les autres médias, ceux de la révolution de la radio, la nôtre, ceux de la révolution de la télévision ou de la révolution numérique, partout l'écrit, avec le principe des caractères séparés, est devenu la norme. Merci Gutenberg. Alors pour préparer cette émission, évidemment, on s'est servi de la biographie Fayard de Gutenberg. Elle est réalisée par Guy Bechtel. C'est l'ouvrage qui reste une référence au fil des ans. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Présenté par Fabrice Dalméda.
Préparé par Adèle Salmon. Réalisé par Christophe Daviau.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.